Ah, les plateformes. Les gens y dansent et réalisent des performances, parfois fascinantes, parfois gênantes. Pendant que sur d'autres types de plateformes, Mario lui fait les plus beaux sauts. Eh bien, n'oublions pas non plus les chaussures à plateforme qui sont redevenues à la mode. Ça, je dois admettre que je l'ai pas vu venir. Mais les plateformes, c'est aussi les sites web et les applications qu'on utilise tous les jours, dont certaines pour acheter et vendre des biens ou services. Grâce à Internet, des gens partout dans le monde gagnent de l'argent par l'intermédiaire des plateformes. Par exemple, il y en a qui vous permettent de rentrer à la maison après une grosse soirée, de recevoir votre repas préféré à votre porte, encore de vendre des articles d'artisanat pour animaux de compagnie, sans oublier toutes celles qui proposent des abonnements au contenu payant. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'économie des plateformes, et votre participation à celle-ci a un impact direct sur vos impôts. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à Impologie, le balado de l'Agence du revenu du Canada où nous parlons des impôts, brisons les mythes et partageons nos connaissances afin qu'il soit plus facile pour vous de faire vos impôts. Je suis Alexandre Carphilippe et nous allons démystifier dans cet épisode l'économie des plateformes. Alexandre, un employé de l'Agence à la division de l'observation numérique et de soutien à la vérification, se joint à nous pour nous parler des emplois qui sont considérés comme faisant partie de l'économie des plateformes et des obligations fiscales des personnes qui occupent ces emplois. Alors bonjour Alexandre, merci d'être là avec moi aujourd'hui.
Bonjour.
Dis-moi, écoute, d'abord, là, si on veut vraiment donner le ton, là, en quoi ça consiste l'économie des plateformes?
L'économie de plateforme, c'est... Les nouvelles technologies ont révolutionné le monde du commerce moderne. Et ça a fait que l'Agence du revenu du Canada pour l'observation fiscale, ça nous a donné des nouveaux défis. On a créé une équipe de travail, c'est mon travail au quotidien, c'est d'établir des stratégies là, pour déceler ou traiter une observation fiscale dans l'économie des plateformes. L'économie de plateforme, en gros, c'est des activités sociales puis économiques qui ont été rendues possibles grâce aux nouvelles technologies, Internet, les applications mobiles. Ça a permis à des acheteurs de s'inscrire sur un site Internet, à des vendeurs de s'inscrire sur le même site Internet. C'est que la plateforme, le site, a mis en relation des acheteurs puis des vendeurs. On pourrait diviser ça en quatre catégories. De base, pour que ce soit un acheteur qui est en relation avec un vendeur. J'ai économisé à la demande. Je suis un homme à tout faire qui veut offrir mes services dans ma ville ou fait que je m'inscris sur un site qui me permet de rejoindre la population. Puis là, je m'inscris là-dessus puis je dis, moi, je pose des cadres. Moi, je suis un poseur de cadres. Puis là, ben moi, je suis à la maison, je cherche sur mon moteur de recherche, poseur de cadres. Oh, j'arrive sur le site. Et je vois qu'il y a un poseur de cordes, je clique là-dessus, puis là, ben ça me met en relation avec toi, puis là, ben on s'entend sur un prix, ça coûte 50 $ venir poser mon cadre chez nous. Tu viens chez nous, ça donne 50 $ Mais là, on vient de créer, tu sais, l'économie à la demande. Tu m'as vendu une de tes compétences que moi, j'avais besoin pour un prix. Puis on a utilisé un site Internet pour créer notre relation d'affaires. Après ça, il y a l'économie sociale, les médias sociaux. J'ai une page avec des personnes qui me suivent. Sur cette page-là, j'utilise un maquillage particulier. Je monte la marque. J'utilise ce maquillage-là. C'est le bon maquillage pour aller à une soirée. Il décolle pas. Sous les lumières du plancher de danse, là, il reste toujours parfait. Puis je le vends. Puis là, je monte mes images que moi, j'ai utilisé ce maquillage-là en train de danser. Puis là, ben là, tout le monde qui me suit... aime ma vidéo, aime mon message, puis là, ils vont acheter là, ce produit-là. Puis là, ben ce commerce-là, X, te redonne des produits pour que tu remettes sur les réseaux sociaux, puis ils te commanditent, puis ils te donnent des dons et des revenus publicitaires. Ben toute cette relation-là d'affaires a été créée comment? Elle a été utilisée sur tes réseaux sociaux pour faire la promotion publicitaire d'une compagnie X. Puis eux, ben ils te redonnent un montant, on appelle ça de l'économie sociale, d'utiliser les réseaux sociaux pour faire de la publicité.
C'est important de rappeler que c'est pas nécessairement un montant, c'est peut-être même juste les produits ou la visibilité. Donc, il n'y a pas un échange d'argent nécessairement qui se fait dans cette économie-là.
Exactement. L'argent n'est pas... Le troc existait il y a des années, qui était un échange de services et il n'y avait pas d'argent. Et c'est le même principe. Une prestation de service, tu offres un service de publicité par l'entremise de ton réseau social et tu reçois des produits en échange. Tu as fait une prestation de service qui engendre des revenus. Après ça, on pourrait parler de l'économie de partage. J'ai une voiture. Ma voiture est là le soir. Moi, j'ai envie de l'utiliser. Je m'inscris sur une plateforme puis je dis j'offre mes services de conducteur. J'ai besoin d'un transport, moi, pour aller du point A au point B. J'ai besoin d'aller au centre d'achat. J'ai pas de véhicule. Ah, je tape sur Internet. j'utilise une application qui me met en relation avec toi pour me transporter du point A au point B. Fait que tu utilises ta voiture personnelle, tu reçois un montant de la plateforme, que moi j'ai donné un montant à la plateforme te remet un montant. Donc, tu as été rétribué pour m'avoir transporté du point A au point B. Ben, tu te retrouves dans une économie de partage, tu es utilisant tes biens pour offrir un service de transport à une autre personne. Et après ça, il y a l'économie de pair à pair. J'ai construit des instruments en voie. J'en ai une masse. Moi, je suis rendu super bon dans l'ébénisterie, puis j'en ai fait plusieurs. Fait que j'utilise un site de revente pour mettre mes cuillères de bois pour faire de la musique. Toi, tu utilises encore un site de recherche. Je veux trouver les cuillères de bois. Oh, tu trouves un site Internet qui te met en relation avec moi, puis que tu aimes mes cuillères à moi. On rentre en relation, on établit un prix d'affaires. Je te livre le produit. Après avoir reçu le produit, tu es satisfait. Tu mets une super note sur Internet pour dire que le produit est tel que vu sur la photo. Il fait vraiment de la musique. Pis c'est vraiment en bois. Fait que moi, ça me permet après ça de revendre mes cuillères de bois. J'en fais de plus en plus. Ben là, on est dans un exemple d'échange de vente de biens de pair à pair. C'est super l'utilisation d'une plateforme qui n'est pas un commerce là, avec pignon sur rue.
Puis dis-moi, je reviens sur les biens de pair à pair. Là, évidemment, on parle de choses qu'on a fabriquées ou qu'on vend nous-mêmes à l'état neuf ou c'est qu'on fait le grand ménage du printemps et puis on annonce nos objets. Est-ce qu'on doit aussi le déclarer?
Bien, l'analyse est cas par cas. Une source de revenus, tu sais, de base, une source de revenus, on devrait la déclarer. Ta vente de garage, de biens personnels, ben c'est des biens personnels, ben ça a un traitement fiscal qui est à part de si je fabrique des jouets en bois que je vends sur une plateforme, puis on voit qu'il y a une entreprise commerciale reliée à ça. Établir une source de revenus, là, il y a plein de critères, que c'est une grande liste, une discussion, c'est du fait parfait. On peut pas dire d'emblée c'est du revenu d'entreprise, c'est une source de revenus, mais on doit se questionner là. Si on fait ce genre de commerce-là. À la base, on devrait se dire, je devrais-tu déclarer mes revenus? Je devrais regarder, je devrais analyser la situation, puis pas prendre ça comme, mais tout est une vente de garage, je vends ça sur Internet, là, puis tout est correct. T'sais, c'est vraiment important là, de s'informer, parce que à la base, si on suit la loi de l'impôt du Canada, un revenu, c'est-à-dire un dépôt dans ton compte de banque, ça serait imposable. Fait que, à partir de ce moment-là, faut que tu fasses l'analyse pour le rendre non imposable. T'sais.
Puis là, justement, comment on détermine si la source de revenus là, doit être déclarée ou pas?
La source de revenus, comme je disais tantôt, les jurisprudences à travers le temps ont établi, tu sais, il faut que tu... On dit d'une affaire sérieux, ce qu'il appelle à peu près dans le concept qu'une entreprise, c'est je vends des biens, je m'assure de... j'ai un coût, par rapport à mon coût, je vais vendre mon bien plus cher, donc je vais faire des profits, tu sais, il y a une mécanique derrière ça. Je fais de la publicité, je m'informe à savoir, mes concurrents, eux, ils vendent. Toutes ces démarches-là, tous ces réflexes-là pourraient porter à croire que t'es pas une personne normale qui vend quelque chose pour le plaisir. Je vends mon véhicule, mettons, sur Internet, j'en vends rien qu'un. Ben, tu sais, c'est correct, t'sais. Mais j'ai rendu que je vends un véhicule par semaine. C'est pas le commun des mortels qui fait ça. Tu sais, je veux dire, là, je pense que je change de la routine du normal, du citoyen normal. Tu sais, c'est tous ces réflexes-là qu'on devrait avoir comme pour se poser la question.
Ça nous mène d'ailleurs à une question vraiment importante là, que je vais te demander. C'est quoi les répercussions fiscales si on perçoit l'économie de plateforme, donc?
Comme je l'explique à toi, en revenu, la majorité du temps dans l'économie de plateforme, on est vous considéré comme un travailleur indépendant, comme une entreprise. Un travailleur indépendant doit payer des impôts sur tous ses revenus déclarés, même ceux sur l'économie de plateforme. Il doit, comme je disais, payer ses revenus ses régimes sociaux, là, régimes des rentes, régimes de pension. Et surtout, il y a aussi un aspect important à tenir compte. Si on génère une source de revenus sur 4 trimestres civils, qu'on dit, c'est-à-dire à peu près sur 12 mois, à peu près plus d'une trentaine de, plus de 30 000 $, là, on doit s'inscrire ou à la TPS, à la TVH, TVQ, charger ces montants-là à nos clients. Puis, il y a une exception à ça, là. C'est-à-dire, si tu es un chauffeur de taxi, un genre Uber ou Lyft ou quelque chose, des applications du genre, C'est au premier dollar qu'ils doivent s'inscrire là, pour la taxe, changer la taxe puis la TVQ à leurs clients. Ça, c'est des répercussions fiscales qui viennent avec l'économie de plateforme. Et comme mais en contrepartie, si tu as une source de revenus, ben on va pouvoir t'accorder les dépenses en conséquence de ta source de revenus. Mais il faut faire attention. Le défi là-dedans, c'est du cas par cas. Et surtout, des fois, on a dans ce type d'industrie-là la distinction entre une dépense personnelle puis une dépense à faire est difficile là à déterminer. Par exemple, j'utilise mon véhicule pour personnel et pour affaires. Oui, j'ai le droit à des dépenses, mais pour ça, il va falloir que je démontre les dépenses du véhicule pour l'année au complet. Après ça, il va falloir que je démontre le nombre de kilomètres que le véhicule a fait dans l'année au complet et le nombre de kilomètres que j'ai fait personnel et le nombre de kilomètres que j'ai fait affaires. Donc, avec un registre, je tiens en note, je suis allé à tel endroit pour telle raison. Puis à la fin de tout ça, on va vous donner une proportion affaires et personnel. Mais ça, faut que tu tiennes un registre ou même principe, des fois, les gens, je loue un logement provisoire et je me fais un jardin dans la cour. Tu vois, parce que c'est, tu sais, il est à côté de mon logement que c'est une dépense que je peux demander. Tu sais, c'est d'où ces choses-là, des fois, que faut vraiment se poser, tu sais, la question, ma source de revenus, c'est-tu, quand les dépenses sont entre le personnel pour affaires, c'est beaucoup ça le travail. Il y a un gros défi, là, de discussion, de puis c'est aux contribuables à démontrer que c'est affaires plus que personnel. Là.
Donc, on est vraiment dans une approche là, de pourcentage et d'utilisation à l'image un peu de ce qu'on fait avec les travailleurs autonomes au sens traditionnel.
Exactement.
Puis là, on parle beaucoup d'économie plateforme, on parle beaucoup des conséquences, mais est-ce qu'on peut illustrer encore plus donc des exemples d'économie plateforme? Par exemple, le partage pair à pair, les demandes sociales, je pense à vraiment toutes les approches. Il y a différents types de travail. Comment on peut les déterminer dans lesquels on se range?
Ben, l'important, l'économie de plateforme, comme on l'expliquait tantôt, c'est mettre en relation un acheteur et un vendeur par une plateforme numérique. Donc, de base, si je m'inscris comme un vendeur sur une plateforme, j'ai déjà un réflexe que je m'approche de l'économie, tu sais, d'une économie numérique, parce que je m'inscris comme vendeur, je donne mes informations que le site demande. Fait que là, puis je sais que j'ai quelque chose à donner, à offrir, que ça soit mon véhicule pour le transport de personnes, une partie de mon appartement que je loue à quelqu'un d'autre. Fait que par réflexe, je sais que j'offre quelque chose, la garde d'enfants, l'homme à tout faire, tu sais, puis j'utilise une plateforme pour faire ma publicité, pour que le monde vienne en relation avec moi. Ce qui est différent de l'époque, pas de l'ancienne époque, ça existe encore, mais c'est une nouvelle économie. Tu sais, les vitrines, avant, là, on ouvrait une porte, on rentrait dans un commerce, puis on voyait quelqu'un, puis on voyait les vêtements, puis on voyait. Là, on se disait, si j'ai un commerce, si j'ai une enseigne, si j'ai un nom, j'ai un commerce, c'est automatique, j'ai un commerce, tu sais, j'ai pignon sur rue. Là, maintenant, on a une vitrine, mais qu'on appellerait numérique. C'est l'ordinateur, on est derrière notre écran, on fait affaire avec quelqu'un qui a un entrepôt en Ontario qui lui entrepose mon stock, puis je lui dis « Envoie ce stock-là à Monsieur X à telle adresse », puis il me charge une commission pour ça. Fait que là, c'est le changement de modèle, le changement du modèle conventionnel qu'on appelle. Puis là, on oublie que parce qu'on n'a pas pignon sur rue, parce que personne rentre dans mon commerce, je dis pas « Salut, bonjour » à mon client, il voit pas ma marchandise, puis là, on oublie qu'on a une entreprise. Là. J'ai utilisé un site Internet pour offrir une activité économique.
Et puis là, on parle vraiment de biens matériels, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'économie à la demande, l'économie sociale, là, où c'est vraiment soi-même qu'on vend et qu'on met en vitrine et non pas un produit ou un bien qu'on a fabriqué. Donc, c'est important aussi de se rappeler qu'on peut nous-mêmes, dans l'économie actuelle, devenir le produit. Et puis, on a beaucoup de choses à tenir en compte. Donc, je ne sais pas si tu as des exemples précis de situations, justement, dans ces deux économies-là où on doit être en garde, que là, on est vraiment en train de faire un acte qui est commercial, finalement.
Un exemple commun, je suis sur un réseau social. Je présente un voyage, des photos de voyage dans un hôtel précis. Puis cet hôtel-là me remet en échange des nuits gratuites ou un prochain voyage dans un prochain hôtel dans un autre pays. Ben là, c'est des photos. c'est ma personne qui prend des photos, qui publie ça sur mes réseaux sociaux. On est en train de faire une prestation de service. On fait la publicité de produits et en échange, on reçoit une compensation qui est hôtel gratuit, voyage gratuit.
Parce que c'est important de se rappeler qu'en une situation comme celle-là, on n'a pas reçu d'argent et on n'a pas payé d'argent. Donc, on est vraiment là, dans quelque chose qui doit être calculé autrement et qu'il faut tenir en compte quand on commet l'action ou on pose la publication en ligne.
Hey, le troc, tu sais, à une époque, on échangeait des pots de castor contre un couteau ou quelque chose du genre, mais c'était une prestation quand même. On échangeait un bien pour un bien. C'est pas parce que c'est un échange de biens ou service pour service. L'argent, c'est pas l'élément tout le temps qui déclenche le revenu. Lorsque c'est un bien comme ça, c'est-à-dire ça a une valeur qui est quand même monétaire, une juste valeur marchande qu'on appelle. Cette juste valeur marchande-là et le revenu que tu as reçu par une prestation de service, puis lui, on peut l'établir. C'est pas nécessairement un dépôt bancaire, ce n'est pas nécessairement juste ça des revenus. Et c'est ça, faut tenir compte de j'ai reçu quelque chose en échange de quoi. C'est ce que j'ai reçu, ça a une juste valeur marchande. Et si je l'ai reçu à des fins commerciales, comme dans l'Agence du revenu du Canada, dans la loi d'impôt du Canada, d'impôt du revenu du Canada, on peut considérer ça comme un revenu d'un travailleur indépendant.
Et là, je pense là-dedans, il y a par exemple les abonnements, il y a des revenus qui peuvent être publicitaires, il y a, on se disait, là, du placement de produits, des cadeaux qu'on reçoit aussi, c'est important de le mentionner. Il y a beaucoup de gens sur les plateformes, les médias sociaux qui vont mettre en valeur des choses qu'ils ont reçues gratuitement et qui vont ensuite en faire la promotion. Et là, on n'est pas juste dans une nuit à l'hôtel, on est dans des biens matériels qui nous ont été offerts, qu'on utilise dans la vie de tous les jours, mais on en fait quand même la promotion quand on les place en ligne là ensuite.
Exactement. Puis la notion de cadeau, elle est très large, on dirait, de dons et de cadeaux. Elle est utilisée dans un sens très... Beaucoup de monde maintenant de nos jours reçoivent des cadeaux et des dons parce que dans le commun des mortels, ça, on a retenu ça de nos cours sociaux ou d'impôts ou économiques. Un cadeau puis un don, c'est pas imposable. Et on dirait que cette notion-là est rentrée à quelque part dans les mœurs des gens, mais c'est pas une réalité. Là. La réalité, c'est pas vrai que tous les cadeaux et tous les dons ne sont pas imposables. Ça dépend, de la nature de la transaction qui a amené la réception de ce cadeau, qui a amené la réception de ce don. Et c'est une analyse complète des faits qui détermine, OK, c'est vraiment un cadeau, donc c'est vraiment non imposable. Mais c'est pour ça qu'à la base, au Canada, on est un régime d'autocotisation et qu'on fait confiance à tout le monde. Tout le monde va déclarer ses revenus. Tout le monde va déclarer ce qu'il reçoit comme cadeau. Tout le monde va déclarer ses dons. Puis après ça, après une analyse de chacune de ces sources-là, on va déterminer si c'est imposable ou non imposable.
Et ça me mène d'ailleurs à une question importante. On disait le système est complet et complexe parfois pour certains. Donc, est-ce qu'il existe un service que l'Agence du revenu du Canada offre pour ceux qui auraient des questions, mais aussi qui pourraient se lancer ou encore qui se demandent si les gestes qu'ils font vont concrètement avoir des répercussions fiscales là, dans l'économie des plateformes et dans leurs déclarations à venir?
L'Agence du revenu du Canada a des lignes téléphoniques pour les questions de base, mais on a lancé un programme d'agent de liaison qui est un programme spécial qui permet aux entrepreneurs, travailleurs autonomes, de discuter avec un agent qui ne fait pas le rôle du représentant. Il dira pas, c'est pas un représentant qui va faire ta déclaration d'impôt, qui va faire ta comptabilité. C'est une personne qui va te verbaliser en discutant avec toi la loi de l'impôt du revenu du Canada et tes obligations fiscales.
Et puis, on le disait tantôt, il y a énormément d'informations. C'est évidemment évolutif. C'est un type d'économie qui se redéfinit chaque année. Donc, j'imagine qu'il y a des endroits où on peut accéder à l'information la plus à jour en tout temps si on la recherche, autre qu'en nous appelant. Alors, c'est peut-être nous dire ce qu'on va retrouver en ligne si on va sur canada.ca. Est-ce qu'on va trouver certaines choses là qui vont être bonnes à garder en tête? Là?
Oui, on a un site de l'économie sur canada.ca sur l'économie de plateforme. Si vous utilisez le terme économie de plateforme sur un moteur de recherche, vous devriez arriver là, sur le site de Revenu Canada assez facilement et qui verbalise assez facilement les types d'économie à la demande par rapport social. Puis quand on clique sur chacune des économies, il nous explique pour cette économie-là. Est-ce qu'on fait partie de cette économie-là, premièrement? avec des exemples là, assez détaillés. Là.
Bien, Alexandre, merci d'avoir pris le temps avec nous de démystifier cette économie nouvelle et de plus en plus répandue. Je veux rappeler à tout le monde là, qu'on peut obtenir des renseignements sur la page qui s'appelle « Respect des lois fiscales dans l'économie des plateformes ». C'est facile à trouver sur canada.ca. Et puis, surtout, Alexandre, on le rappelle, dans le doute, contactez-nous. Et c'est ce qui termine notre épisode du balado Impologie. J'espère que vous comprenez mieux en quoi consiste l'économie des plateformes et que vous êtes maintenant prêt à vendre en ligne vos travaux de crochet pour chat. Attendez, les chats font du crochet. Ou encore vos bougies parfumées au sirop d'érable. Et là, attendez-vous à recevoir beaucoup de demandes de France. Encore un gros merci à notre invité Alexandre. Si vous voulez en savoir plus sur les sujets que nous avons abordés dans cet épisode et bien plus encore, rendez-vous à canada.ca/impôt ou encore suivez-nous sur Facebook, Twitter ou Instagram au @commercial agence Rêve Cannes. Je suis votre animateur Carl Philippe et je vous rappelle que faire vos impôts, ça peut être payant.